L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Mais quel plaisir, à midi passé d'une minute, de vous retrouver, Anne-Rose Jankovic. Quel privilège.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est un plaisir de vous retrouver sur
l'antenne. Moi, je suis rentrée de vacances pour voir Gilles Galbardi, puis c'est vous. C'est très bien, je suis ravie quand même.
Merci, j'ai eu peur.
Je suis ravie de vous retrouver, vous et les auditeurs de Radio Présence.
Écoutez, merci beaucoup. Dans quelques instants, on vous retrouve pour le rendez-vous agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes. Et puis ensuite, on va parler de la visite du Saint-Père à Lourdes.
Et oui, et je vous propose aujourd'hui d'entendre une interview du père Baptiste Pochulu. Il est le responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'est lui qui sera cérémoniaire lors de la venue du Saint-Père au sanctuaire à la fin du mois de septembre. Alors, comment tout ça se prépare? Eh bien, il va tout nous dire.
On va rentrer dans les coulisses de l'organisation, donc de l'arrivée du Saint-Père.
Ah oui, alors on va vous en parler au cours des semaines à venir.
Exactement. Et puis après, mais moi, je vous amène dans une commune que vous connaissez sûrement et qui est très, très, très à Lourdes, qui comprend Lourdes, c'est la ville de Bartrès.
Ah, bah évidemment.
Oui, mais là, on va le voir d'une différente façon, puisque c'est avec l'Office du tourisme que Gilles Galbardi va nous parler de Bartrès. Il y a forcément la bergerie, et également la maison où a demeuré Bernadette, chez sa tante.
Voilà, on va aller donc sur les pas de Sainte Bernadette.
Exactement, à Bartrès, voilà, très jolie commune, au-dessus de Lourdes, très liée à Lourdes. Voilà.
Oui, on peut même y aller à pied. Il y a un petit sentier qui nous permet d'y aller très facilement à pied. On peut, voilà, avec même des enfants un peu jeunes.
Très bien, mais pour là, on retrouve l'actualité, l'essentiel.
Bonjour à tous. Près de Toulouse, un important incendie a menacé une trentaine de maisons. Près de 120 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour protéger les habitations et lutter contre les flammes. Dans le Tarn à Albi, deux personnes ont été retrouvées mortes dans un appartement. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de ces décès. Et en Haute-Garonne, un jeune homme a perdu la vie dans un accident de motocross au niveau de la réserve naturelle de la confluence Garonne-Ariège. Il circulait sur des chemins interdits aux véhicules à moto. Dans les Hautes-Pyrénées, retour progressif à la normale après les orages. Le col de Tourmalet doit de nouveau être accessible depuis Barège après les importantes coulées de boue. Et en sport, Léon Marchand est champion d'Europe du 400 mètres nage libre. Le Toulousain envisage désormais cette distance pour les Jeux Olympiques de 2028. Et enfin, Airbus livre un A350 transformé en œuvre d'art avec une décoration dorée imaginée par un artiste japonais. Voilà pour les titres de l'actualité. Belle journée à tous sur Radio Présence.
Allez, on vous retrouve tout à l'heure, Clémence Roux, pour le journal de la mi-journée.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vous aurez remarqué, Anne-Rose Jankovic, que j'ai mis le jingle du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Je vous en remercie.
Parce qu'il va en être question tout de suite. C'est le rendez-vous agenda. Et chaque semaine, vous voulez nous dire un petit peu ce qui va se passer dans le diocèse. Et vous nous entraînez pour le début de cet agenda en vallée de Casteloubon. Vallée de Casteloubon qui se trouve, on va dire, au nord de Lourdes.
Exactement, entre Lourdes et Argelès-Gazost. Alors, moi, j'aime bien dire que la vallée de Casteloubon est la jumelle de la vallée de Batte-sur-Guère. C'est vrai que ce sont deux vallées qui se regardent. Voilà, oui. Et quand on est à Lourdes et qu'on part en direction de la vallée des Gaves, en direction d'Argelès-Gazost, eh bien, vous avez la vallée de Batte-sur-Guère à droite, la vallée de Casteloubon à gauche.
Voilà, avec quelques villages comme Saint-Criac, Juncalas, Gazost. Voilà.
Exactement, et c'est justement à Juncalas que je vous emmène, un petit village qui n'est pas forcément très connu, mais dans lequel il y a une petite chapelle dédiée à Saint-Roch, une chapelle sous le patronage de Saint-Roch, et ce samedi 22 août, eh bien, cette chapelle sera ouverte. Elle n'est pas ouverte très souvent, mais elle sera ouverte à 19h pour la messe, et donc vous êtes évidemment invités à découvrir cette chapelle et à prier avec la communauté paroissiale dans ce petit village. La chapelle est vraiment sur les hauteurs du village. On s'y rend par un petit chemin carrossable, très facile d'accès. Donc n'hésitez pas, c'est l'occasion. Hein, voilà, on est encore dans les propositions un petit peu estivales pour découvrir le patrimoine religieux notamment, mais pas seulement. Mais voilà, jusqu'à la fin du mois d'août, on a tout un tas de propositions comme ça sous le coude.
Et deux propositions, deux concerts ce week-end, et direction donc Bagnères de Bigorre.
Eh bien oui, c'est encore dans cet élan donné par tous les acteurs de la pastorale du tourisme, et vous avez effectivement deux propositions de concerts ce week-end dans l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. D'abord le concert du marché ce samedi 22 août à 11h. Alors pourquoi le concert du marché? Parce que le samedi à Bagnères de Bigorre, c'est jour de marché, un magnifique marché d'ailleurs avec beaucoup d'ambiance, d'ambiance locale, et vous pouvez, une fois que vous avez rempli votre petit panier de tomates et de produits frais locaux, eh bien vous rendre en l'église Saint-Vincent pour écouter ce concert du marché. C'est l'occasion aussi souvent de visiter l'orgue, puisque les organistes de la paroisse qui se succèdent le samedi, régulièrement les samedis, permettent eh bien aux visiteurs de monter à l'orgue et de découvrir l'instrument. Et puis dans cette même église de Bagnères de Bigorre, dimanche 23 juillet à 17h, vous pourrez entendre un concert classique donné par Marc Méraud, c'est lui qui est organiste à la paroisse de Lourdes habituellement. Et bien dimanche après-midi, le 23 août à 17h, et bien il donnera un concert donc en l'église de Bagnères de Bigorre. Voilà, de Lourdes à Bagnères, il fera juste un saut.
Rappelez-nous l'horaire de samedi.
Samedi 11h, dimanche 17h.
Voilà, samedi 11h, donc effectivement juste après le marché. C'est original de proposer un concert après le marché ou pendant le marché.
Oui, et ça a lieu. Alors ça, c'est une proposition qui est parsemée tout au long de l'année, et c'est une très bonne idée, puisqu'il y a énormément de personnes qui viennent à Bagnères de Bigorre, y compris des personnes de la vallée, des villages qui viennent à Bagnères le samedi, et puis des personnes de passage, hein, bien sûr. Et donc c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. On découvre la culture culinaire locale, et en même temps on fait un petit... Et voilà, une petite piqûre culturelle, et voilà, avec ce patrimoine religieux, et puis c'est l'occasion d'entendre de la belle musique.
Allez, on va continuer à se balader dans notre belle région, puisqu'il est encore temps de découvrir le patrimoine religieux, bien sûr, mais cette fois-ci dans la vallée des Gaves.
Oui, et je vous invite à profiter des quelques jours du mois d'août qui restent pour aller du côté donc de la paroisse du pays d'Argelès-Gazost, et pour vous rendre dans les sanctuaires et lieux de pèlerinage. Il y en a plusieurs dans cette vallée. Alors allez, on commence par l'abbatiale de Saint-Savin, qui est ouverte tous les jours de 9h à 19h. Vous avez là un accueil, et puis des visites guidées le jeudi à 15h30 dans cette abbatiale donc de Saint-Savin, qui est quand même un haut lieu de patrimoine religieux dans les Hautes-Pyrénées. Puis à quelques pas de là, vous avez la chapelle Notre-Dame de Piétat, qui est ouverte chaque jour de 15h à 18h. À noter qu'en ce lieu, il est possible de vivre l'adoration du Saint-Sacrement chaque samedi de l'été. Donc il reste encore un petit peu de temps. Et puis c'est un temps d'adoration qui est suivi de la messe célébrée à 11h, donc le samedi, donc jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà pour la chapelle Notre-Dame de Piétat. Un peu plus haut, si vous avez le courage de marcher un peu, Philippe.
Oui, je l'ai.
Voilà, la chapelle de Poyaspé, qui est un peu moins connue. C'est une petite chapelle qui est sur la commune de Uzes, donc c'est tout près de Saint-Savin. C'est une chapelle qui a été construite au 19e siècle, à l'emplacement même où Saint-Savin, donc une figure spirituelle de la Bigorre, avait son ermitage. C'est là que, vous pouvez encore voir, dans cette petite chapelle du 19e siècle, un rocher creusé qui sert d'abri, mais aussi de lieu de prière à Saint-Savin. Et donc, cette chapelle de Poyaspé est ouverte tout l'été, le mardi, de 14h30 à 16h30. Vraiment, je vous invite à découvrir ce lieu qui vous donne en plus un point de vue assez magnifique sur la vallée des Gaves. Et puis, pour terminer dans cette vallée des Gaves, évidemment, il y a le sanctuaire Notre-Dame de Poyaspé, qui est un peu plus loin, dans le Val d'Azun, à Arins-Marsous exactement, où une permanence d'accueil est organisée les mardis, jeudis et dimanches de 15h à 18h. C'est un lieu absolument magnifique, cette chapelle du sanctuaire Notre-Dame de Poyaspé, qui est toute dorée.
D'accord. Voilà. Et comme l'avion, tout à l'heure dans l'information.
Voilà, exactement, si vous voulez. Et vous pouvez même y vénérer les reliques de Sainte-Anne.
Très bien.
Qu'on se le dise.
Mais qu'on se le dise. La vallée des Gaves, donc, ben, on sort de Lourdes et on part vers Argelès.
Argelès et au-delà.
Et au-delà. Voilà. Ben, c'est vrai qu'après le 15 août, ben, on se dirige petit à petit vers la rentrée. Et la rentrée pastorale, ben, elle aussi, elle approche. Et vous nous dites qu'elle sera bien mouvementée cette année avec, bien sûr, on va en parler dans quelques instants, c'est la visite du Saint-Père.
Ben, évidemment, vous savez bien que l'événement du mois de septembre, c'est la visite du pape Léon XIV en France et à Lourdes. Les paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes sont d'ailleurs mobilisées. Elles ont mis ou elles sont en train de mettre en place des bus. Alors le message à relayer via les ondes de Radio Présence à tous les fidèles de la Bigorre et des Quatre Vallées, eh bien, c'est vraiment de vous inscrire auprès de votre paroisse pour pouvoir venir prier avec le pape Léon XIV le dimanche 27 septembre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Inscrivez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez profiter du bus donc mis en place par votre paroisse. Et voilà, désolé pour les auditeurs qui ne sont pas du diocèse de Tarbes et Lourdes, mais les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes auront un emplacement un peu privilégié lors de la messe célébrée par le pape Léon XIV dans la prairie le dimanche 27 septembre à 11h, voilà. Donc matin.
Voilà, surtout s'inscrire et venez avec votre paroisse, ne venez pas seul.
Voilà, alors d'abord c'est vraiment l'occasion de vivre une rentrée pastorale absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte que pour démarrer l'année pastorale, vous allez avec les autres membres de votre communauté paroissiale prier avec le pape au sanctuaire de Lourdes. Enfin, c'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Pour démarrer une année pastorale, c'est vraiment un événement incontournable. Et puis, il y a le côté pratique, faut bien le dire. Profiter des bus qui sont mis en place par les paroisses. On a beaucoup de chance d'avoir des bénévoles qui s'occupent de mettre en place des bus dans les paroisses. Ça vous permet de ne pas avoir le souci de venir avec votre voiture. D'ailleurs, ce ne sera pas possible d'aller jusqu'à Lourdes en voiture. Donc, vous n'avez pas ce problème-là d'acheminement puisque le bus s'occupera de vous. Voilà.
Voilà, donc réservé.
Voilà.
Et comment on fait ?
Alors, comment on fait ? Vous contactez le secrétariat de votre paroisse. Donc, il y a un secrétariat dans chacune des 10 paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et c'est très facile et simple de s'inscrire. J'indique qu'il faut quand même avoir un papier d'identité en cours de validité. Je profite, puisque nous parlons du pape, pour indiquer qu'à cette occasion, il y a un week-end organisé. Ce sera le week-end de rentrée d'aumônerie des lycéens, étudiants et jeunes pros de Tarbes. Alors, eux, ils ont eu la très bonne idée de proposer aux jeunes, lycéens, étudiants et jeunes pros de vivre tout un week-end, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, avec bien sûr dans le week-end, la journée du dimanche à Lourdes, avec le pape et toutes les paroisses et tous les fidèles de partout qui seront là. Et pour vivre ce week-end, il faut que les jeunes s'inscrivent. Ils seront logés à Haussin, tout près, entre Tarbes et Lourdes. Et ils vivront donc tout un week-end de temps fraternel, de prière, avec ce grand temps fort à Lourdes le dimanche 27 septembre. Donc effectivement, pour ça, les jeunes doivent s'inscrire sur le site de la paroisse de Tarbes ou bien via l'application au clocher où ils peuvent trouver toutes les informations pratiques.
Et on le répétera bien sûr chaque semaine pour qu'on puisse s'inscrire ou avoir l'information. Et puis on termine, puisqu'on disait que c'était une rentrée bien mouvementée, avec, alors là c'est aussi un moment de fête, une ordination diaconale.
Exactement, alors on a beaucoup de chance cette année, au tout début du mois de septembre, dimanche 6 septembre, donc avant même la venue du pape, il y aura l'ordination diaconale d'un de nos séminaristes, Corentin Laguins, qui sera donc ordonné diacre en la cathédrale Notre-Dame de la Cède, c'est à Tarbes, et à l'occasion de cette ordination, tous les jeunes du diocèse sont invités à vivre une grande journée diocésaine. Alors tous les jeunes, puis même les enfants, parce que ça va de 7 à 35 ans. L'invitation est faite pour toutes ces tranches d'âge, de 7 à 35 ans, de 10h à 15h à la maison Saint-Paul, donc à Tarbes, c'est la maison diocésaine. Toute une journée de retrouvailles, d'ateliers, d'activités, de temps spirituel, de temps festif. Et puis, à 15h, lorsque la journée s'achève, tout le monde, la journée ne s'achève pas tellement, puisque tout le monde se rendra à la cathédrale pour entourer Corentin Laguins de nos prières, et vivre ce moment en diocèse, dimanche 6 septembre.
Et c'est une ordination diaconale
En vue du sacerdoce.
En vue, pardon, du sacerdoce.
Évidemment.
Exactement. Et bien voilà. Et donc il faut se réjouir, c'est moment de fête pour le diocèse.
Ah oui, le mois de septembre, alors là on fait la fête, et puis alors quand on aura fini de vivre tout ça, et peut-être même avant, je vous parlerai du pèlerinage diocésain au mois d'octobre, mais là, pour aujourd'hui, ça va aller.
Voilà, exactement. Un grand merci à Anne-Rose Jankovic. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est juste une petite pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant pour parler aussi du Saint-Père. Et là, on va rentrer dans les coulisses de l'organisation.
Et précisément aujourd'hui, dans les coulisses du service liturgie, puisque vous allez entendre dans quelques minutes le père Baptiste Pochulu, qui est le cérémoniaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui est responsable du service liturgie et qui va nous expliquer comment on prépare la venue du Saint-Père au sanctuaire de Lourdes. Comment se prépare la venue d'un pape.
Et voilà.
Il va tout nous dire.
Et malgré que c'est les vacances, eh bien vous travaillez et c'est du son tout neuf.
C'est du son tout neuf.
Exactement.
Enregistré ce matin, au petit matin.
Merci Anne-Rose Jacobi.
Merci beaucoup Philippe.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi.
Du Tarn, 97.9.
Bonjour Père Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes également le cérémoniaire au sein de ce sanctuaire marial, un lieu important, un lieu qui s'apprête à accueillir le pape Léon XIV à la fin du mois de septembre. Et avec vous, on va voir un petit peu les coulisses, comment on prépare l'avenue du Saint-Père au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. D'abord, est-ce que vous pourriez, pour qu'on comprenne bien votre rôle et le rôle de la liturgie dans ces préparatifs, nous expliquer quelle est votre mission en tant que cérémoniaire et responsable de la liturgie au sanctuaire?
La venue du pape fin septembre a élargi, si vous voulez, un peu la mission qui est la mienne en temps habituel au sanctuaire. Quand cette venue s'est confirmée, Mgr Mika m'a tout de suite dit que ça serait à moi qu'il voulait confier la responsabilité de la liturgie pour la venue du pape ici au sanctuaire. Et donc, le rôle qui est le mien, c'est de coordonner en lien avec Rome et la Conférence des évêques de France, de coordonner et de préparer l'ensemble des liturgies que le Saint-Père va soit présider, soit va venir vivre aussi au sanctuaire. Le pape vient comme pèlerin au sanctuaire, il vient à la fois comme pèlerin parmi les pèlerins et aussi comme pasteur universel, et donc comme pèlerin parmi les pèlerins, il faut qu'à travers la liturgie, le Saint-Père puisse vivre ce que viennent vivre en temps habituel, en temps normal, n'importe quel pèlerin, n'importe quel fidèle ici auprès de Notre-Dame.
Ça veut dire que les temps forts liturgiques, ils seront les temps forts liturgiques qu'on a l'habitude de voir et de vivre à Lourdes.
C'est exactement ça. Dans une journée du pèlerin, on voit bien que c'est le passage à la grotte, une messe, la procession mariale, enfin voilà. Donc ça, c'est les trois temps forts liturgiques que l'on retrouve du pèlerinage du Saint-Père ici au sanctuaire. Et après, pour les pèlerins aussi, on a, on le sait bien, le chapelet à la grotte, la procession eucharistique, et puis différents temps qui peuvent être proposés comme la présentation du message de Lourdes. Mais quand même, quand on repense aux événements de la grotte de Massabielle, les 18 apparitions de la Vierge Marie, il y a cette visite à la grotte, qui est le cœur de tout pèlerinage, la réponse à la demande de la Vierge Marie de venir ici en procession, et pour le Saint-Père, ça sera de conduire et de vivre cette procession. Mmh. Et puis, bien sûr, l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, comme le rappelle si bien le Concile Vatican II, et donc le pape qui, comme pasteur universel, présidera ici aussi cette grande messe sur la prairie.
Alors, un pasteur et un pèlerin, pas comme les autres quand même, faut bien le dire. On va parler de tous les aspects un petit peu pratico-pratiques, les logistiques, parce que c'est intéressant aussi de voir peut-être le nombre de chasubles qu'il faut, etc. Mais d'abord une question sur l'équilibre à trouver, et sans doute que vous y travaillez, entre la liturgie à respecter, bien sûr, et puis les exigences du protocole pour recevoir un invité, un pasteur et un pèlerin, vraiment pas comme les autres.
Alors, deux choses qui ont conduit justement cet équilibre à trouver, la construction des liturgies au sanctuaire. Première chose, c'est j'ai été nommé ici au sanctuaire, Mgr Mika m'a donné comme maxime, je dis pas comme règle, mais comme maxime, le missel, tout le missel, rien que le missel. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, dans le cadre de la préparation des liturgies du Saint-Père en France, manière générale, les différentes responsables liturgie des trois villes que le Saint-Père va visiter, nous nous sommes rendus à Rome pour avoir un temps de connaissance et de préparation des liturgies. Et effectivement, j'ai bien retrouvé cette maxime que Mgr Mika m'avait donnée, puisque dès qu'on essayait de réfléchir à des choses, on regardait la présentation générale du missel romain ou la présentation générale de la liturgie des heures pour savoir effectivement ce que l'on pouvait ou comment on pouvait adapter certaines choses pour être sûr que on ait une liturgie qui soit catholique dans le sens universel et qui n'est pas une espèce de liturgie papale qui pourrait servir ensuite de référence, pour quelques inventions liturgiques. Voilà. Et le Saint-Père, je crois, l'a rappelé dernièrement dans des catéchèses qu'il fait actuellement sur toute cette thématique de la liturgie, effectivement, comme quoi il fallait s'en tenir à ce qui avait été approuvé. Donc c'est ça qui conduit toute la mise en place et l'imagination aussi, parce que le bureau de célébration liturgique du Saint-Père donne un cadre général, et dans ce cadre général, on a la possibilité de se mouvoir quand même.
Voilà, donc ça, en fait, la ligne à suivre, c'est le missel, et c'est la même ligne, évidemment, pour tous les lieux où le Saint-Père passera lors de ce voyage apostolique en France, que ce soit à Metz ou à Paris, les consignes, la ligne à suivre sont les mêmes.
C'est exactement ça. C'est-à-dire de pas créer de précédent en se disant voilà, le pape l'a fait, donc moi aussi je peux le faire dans ma paroisse ou tel évêque. Voilà. Donc c'est ça, c'est pas de ne pas créer de précédent et se dire que dans ce cadre général que le bureau de célébration liturgique du Saint-Père nous donne, ben voilà, on a un cadre qui est large, qui est précis et qui est large. Mmh. Donc c'est-à-dire que on sait ce que l'on doit faire donc on sait qu'on peut piocher certaines choses. Et vraiment, nous avons, pour la liturgie des trois sites, on a pu arriver avec des idées, des propositions, et puis, eh bien, on a fini en discutant les uns avec les autres. Mais des choses simples aussi, de se dire, ben voilà, on reprend pas tel chant parce qu'il aura déjà eu lieu à Paris, où on le laisse à Metz, voilà, des choses comme ça.
Le choix des chants, par exemple, ça vous revient. Pour les chants des liturgies ici au sanctuaire de Lourdes, c'est vous qui les décidez.
J'ai travaillé avec le maître de chapelle du sanctuaire, avec Isaiah Ravelli, pour que chacun dans son domaine de compétences, on puisse donc trouver les chants, et surtout par rapport au sanctuaire ici à Lourdes, on a quand même un patrimoine musical que je me permets de qualifier de centenaire, avec des compositeurs. On peut penser au chanoine Lesbordes, au père Deschats, au frère Jean Paul Léco, Isaiah maintenant. Donc il fallait puiser dans tout ce patrimoine musical qui fait l'identité de Lourdes, ou qui fait une partie de l'identité de Lourdes, pour pouvoir faire une proposition pour les chants qui seront utilisés pour la messe, pour la procession mariale et même pour le Templier à la grotte.
Est-ce que vous vous êtes inspiré, est-ce que vous vous inspirez encore de ce qui s'est fait dans les récents voyages apostoliques du pape Léon XIV? Est-ce que ça, pour vous, ce sont des lieux d'exemple à suivre? Vous nous dites que on entend le travail avec Rome. Ça veut dire que depuis des semaines, vous rencontrez les responsables de la liturgie au Vatican pour préparer cet événement?
Alors, c'est sûr que pour pouvoir préparer les liturgies, avec Ruben, un jeune du service liturgie, on a pu prendre le temps de re-regarder notamment les messes de Madrid, de Barcelone, pour voir. Et quelque chose qui a été très important, c'est de calculer le temps que prend chaque geste liturgique. Voilà, parce que
la messe doit durer un certain temps, et la messe est chronométrée.
Oui, on a un temps imparti pour la messe, et donc c'est de savoir, l'agneau de Dieu, il a duré tant de temps à Barcelone, tant de temps à Madrid. Du coup, on fait une moyenne, et puis ensuite, ça permet d'essayer d'avoir un déroulé timé de la messe le plus précis possible pour être à peu près certain que la messe va rentrer dans le temps imparti. Donc ça, donc c'est vrai que là-dessus, les précédents voyages apostoliques ont été une aide. Quand on a été à Rome aussi, on a su nous dire les points à ne pas forcément copier ou imiter des voyages d'autres liturgies du voyage apostolique en Espagne ou ailleurs.
Comme quoi?
Alors, l'un des points qui, moi, m'a fait le plus sourire, le maître des célébrations liturgiques du Saint-Père, donc Monseigneur Ravelli, son cérémoniaire, de raconter le long voyage que le Saint-Père a fait en Afrique. Et la consigne qui est donnée, c'est il est bon que sur le podium où le pape célèbre la messe, il y ait une statue de la Vierge Marie, puisque dans l'Église, il y a cette belle tradition de terminer la messe par une antienne mariale, par un chant à la Vierge Marie ou une prière à la Vierge Marie. Et la consigne, c'est on met la Vierge qui est vénérée localement, il faut se rendre, on sait que Notre-Dame de Lourdes est vénérée localement dans beaucoup d'endroits, et donc en Afrique elle s'est souvent retrouvée sur le podium liturgique, et donc Monseigneur Ravelli de dire ne mettez pas à Paris ou à Metz, ne mettez pas Notre-Dame de Lourdes, et moi de lui poser avec un certain avec beaucoup de taquinerie écrit la question, j'ai le droit, moi, de la mettre. Il m'a dit, vous, oui, mais pas les autres. Donc voilà, donc ça, c'était des choses comme ça. Mais effectivement, à Notre-Dame de Paris, ou au Stade de France, ou Place de la Concorde, on imagine très bien que, voilà, il y a la statue de Notre-Dame du Pilier, puis il y a cette grande statue en argent offerte par le roi Charles X. Voilà. Donc, chaque lieu aura sa particularité. Donc, voilà.
Avant de marquer une petite pause et d'attaquer sur les questions, comme je disais, un petit peu plus pratiques, pardon, j'insiste un peu sur cette question, protocole, comment les exigences du protocole ne prennent pas le dessus sur l'attention apportée à la liturgie, justement. C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un travail d'équilibre subtil. Donc, il y a nous, liturge, tout le travail que l'on fait pour faire voilà le choix des oraisons, le choix des textes, le choix des chants, des mouvements liturgiques et tout ça. Et ensuite, effectivement, il y a le travail qui est fait en lien avec la sécurité. Et on l'a bien vu. Quand les responsables des voyages pontificaux sont venus ici au sanctuaire, on a reçu des indications, on a reçu voilà, des choses comme ça, et avec eux, il y avait la gendarmerie vaticane et la garde suisse. Donc on a vu certaines choses. Et ensuite, moi, en parallèle de travailler par le biais de la CEF avec la liturgie du pape à Rome, et aussi, il y a des discussions en interne à Rome, où ils, eux-mêmes discutent de certaines choses, et ensuite des choses comme ça qui redescendent. Mais effectivement, une chose est sûre, mais c'est peut-être mon prisme, qui me fait voir la chose comme ça. La liturgie prime. Voilà. Et la sécurité s'organise autour. Pour ça, je pense juste à la procession mariale. Que fait le Saint-Père pendant la procession mariale? Est-ce qu'il processionne derrière la statue ou est-ce qu'il reste sur le parvis? Mais derrière, on comprend les questions de sécurité qu'il peut y avoir. Donc c'est voilà. Mais ensuite, en évaluant toutes les choses, le meilleur choix est posé.
On marque une pause, Père Baptiste Pochulu. On vous retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. À tout de suite.
Présence à Tarbes et Lourdes 90.6.
Allez, tout de suite, à 12h passées de 38 minutes, on retrouve le journal présenté par Clémence Roux, étudiante à l'école du journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, les pompiers ont été fortement mobilisés près de Toulouse pour lutter contre un incendie. Le feu a menacé une trentaine d'habitations et près de 120 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place. Leur priorité, protéger les maisons et limiter la progression des flammes. Les circonstances et la condition météo ont rendu les interventions plus difficiles. Dans le Tarn, une enquête a été ouverte après la découverte de deux corps dans un appartement à Albi. Le propriétaire du logement avait été alerté par une forte odeur. En entrant dans l'appartement, les deux personnes ont été retrouvées sans vie. Les enquêteurs doivent désormais déterminer les causes de leur mort et comprendre ce qu'il s'est passé. Haute-Garonne, un accident mortel s'est produit dans la réserve naturelle située à la rencontre de la Garonne et de l'Ariège. Un jeune homme qui circulait en motocross a perdu la vie. L'accident s'est produit sur des chemins où la circulation des véhicules à moteur était interdite. Une enquête doit permettre d'en savoir davantage sur les circonstances du drame. Dans le reste de l'actualité, dans les Hautes-Pyrénées, retour progressif à la normale après les fortes pluies de ces derniers jours. Le col du Tourmalet doit de nouveau être accessible depuis Barège. La route avait été coupée après d'importantes coulées de boue provoquées par les orages. Des opérations de nettoyage ont été menées pour permettre aux véhicules de circuler à nouveau. Un peu de sport maintenant. Léon Marchand ajoute un nouveau titre à son palmarès. Le nageur toulousain a remporté le 400 mètres nage libre au championnat d'Europe. Une épreuve qu'il pourrait désormais travailler davantage. Le Français pense déjà aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 et n'exclut pas de s'aligner sur cette distance. Et on termine avec Airbus et un A350 qui ne passe pas inaperçu. Le constructeur vient de livrer un appareil décoré par un célèbre artiste japonais. Avec son habillage doré, cet A350 prend des airs d'œuvre d'art volante, une rencontre originale entre le monde de l'aéronautique et celui de l'art. C'est la fin de ce flash, très belle journée à tous, à l'écoute de Radio Présence, on se retrouve demain.
Merci beaucoup Clémence Roux, voilà qui nous présentait le journal de la mi-journée. Le retour de l'actualité, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Dans quelques instants, eh bien, nous allons retrouver la deuxième partie consacrée donc à la préparation de la venue du Saint-Père à Lourdes. On parle bien sûr de tout ce qui est liturgique. Et puis ensuite, Gilles Galvardi avec l'Office du tourisme de Lourdes nous entraînera pas très loin sur les hauteurs de Lourdes, à côté de Lourdes, ce petit village qui s'appelle Bartrès. Allez, tout de suite, on retrouve Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Nous sommes toujours en compagnie du père Baptiste Pochelu, responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, cérémonière en ce lieu, qui s'apprête donc à recevoir à la fin du mois de septembre, à partir du samedi 26 septembre au soir jusqu'au lundi 28 septembre au petit matin, sa sainteté, le pape Léon XIV. Alors, vous nous avez offert, père Baptiste, une vue d'ensemble de ce qui se prépare au niveau du service liturgie. On va maintenant attaquer des questions un petit peu pratico-pratiques, parce que l'ampleur des choses à préparer en termes de liturgie. Vous nous avez beaucoup parlé de la messe dans la première partie de cette interview. Alors justement, combien de personnes vous attendez pour la messe? Peut-être que d'abord, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une idée du nombre d'évêques, de prêtres, de séminaristes, de servants d'hôtel qui sont attendus pour cette messe?
Alors, comme le Saint-Père rencontre les évêques de la Conférence des évêques de France juste avant la messe, on imagine bien et on imagine facilement que tous les évêques de France seront présents. Donc, ils sont à peu près 110. Et pour un tel événement, les évêques émérites vont venir également. Je sais aussi qu'il y a des évêques invités, par exemple les évêques frontaliers côté espagnol, des choses comme ça. Comme on a aussi des pèlerinages présents au sanctuaire pendant la visite du pape, on a aussi des évêques italiens qui seront présents. Donc, on peut avancer le chiffre de 180 ou de 200 évêques de manière assez sûre. Dans nos prospectives également, on avait imaginé la présence de 1500 prêtres, et les inscriptions qui avancent ces jours-ci montre qu'on risque d'être véritablement dans ces clous-là.
Des prêtres principalement de la province ecclésiastique?
Des prêtres, je pense qu'ils viennent du monde entier. Quand on voit les mails que l'on peut recevoir et à qui il faut renvoyer le lien d'inscription pour les prêtres, ça vient même de Colombie. Donc voilà.
Même démarche pour tous, les prêtres, évêques, tout le monde doit s'inscrire, tout le monde doit passer par là.
Tout le monde doit s'inscrire, tout le monde doit être accrédité, donc c'est un travail assez important derrière, qui est centralisé au niveau national, mais tout le monde, donc même ce prêtre colombien, hier j'ai appris qu'il y avait un prêtre allemand qui avait été inscrit, voilà, donc la venue du Saint-Père et la messe présidée par le Saint-Père au sanctuaire attirent le monde entier, à l'image de ce qu'est le sanctuaire. Oui. Donc 200 évêques à peu près, 1500 prêtres. On a fait appel, donc en ayant discuté avec Monseigneur Mika, aux séminaristes du diocèse de Tarbes et Lourdes de manière prioritaire, mais aussi pour compléter le service liturgique aux séminaristes des séminaires de Toulouse et de Bayonne pour pouvoir assurer le service liturgique. Pour le faire, voilà, je pense à l'abbé Corentin Laguin, qui sera ordonné quelques jours avant, qui pourra proclamer l'évangile à cette messe pontificale. Enfin, voilà, donc c'est tout ce personnel là qui est sollicité, qui est attendu pour cette messe, plus ensuite les nombreux fidèles qui viendront. Alors j'imagine que dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, beaucoup de gens vont se mobiliser pour venir grâce à tout ce qui est mis en place par les paroisses. Je sais aussi que dans mon diocèse d'origine à Bayonne, la réponse et l'engouement sont forts et très grands pour pouvoir participer au moins à la messe que le pape présidera.
Il faut s'inscrire pour cela.
C'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est une vive recommandation pour s'assurer, pour être sûr que qu'on puisse accueillir tout le monde, tous ceux qui souhaitent venir dans les meilleures conditions, et donc se faire connaître auprès du sanctuaire par le formulaire d'inscription est quelque chose de très vivement recommandé.
Donc cette messe, elle sera célébrée par le pape Léon XIV à 11h le dimanche 27 septembre, donc le matin, dans la prairie. C'est un lieu qui n'est pas habituel pour célébrer des messes. Comment on transforme une prairie en un lieu de célébration ?
Alors, la prairie a déjà servi pour la célébration de la messe, je crois en 83, et en 2008, pour la messe dominicale. En 2004, quand Jean-Paul II était venu pour son dernier pèlerinage, voilà, et qu'il avait choisi Lourdes pour ce dernier pèlerinage, effectivement, la messe avait été célébrée, comme le 15 août, au podium de la prairie. Donc, les messes en extérieur au sanctuaire, effectivement, c'est quelque chose de plutôt exceptionnel. On a celle du 15 août que tout le monde connaît, je crois. Il y a certains pèlerinages qui ont l'habitude de célébrer sur l'esplanade aussi. Je pense particulièrement au diocèse de Lille ou au pèlerinage du Rosaire qui ont ces habitudes-là. Mais c'est vrai que pour le sanctuaire, enfin voilà, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et quand on regarde la configuration de la prairie, on voit qu'elle a été imaginée un peu comme un amphithéâtre. Et donc, je me souviens de quand Rome est venu pour visiter le sanctuaire. Voilà, quelqu'un a dit, oui, mais on voit bien que ça a été imaginé pour ça, et il y a une la nature fait que ben voilà, il y a un point central qui est aujourd'hui la tente des jeunes, et donc voilà, donc la prairie est à peu près organisée d'elle-même. Par contre, il faut effectivement construire un podium sur lequel on va installer un hôtel, un ambon, le siège de présidence, les évêques, et puis organiser la prairie pour que la papa mobile puisse faire le tour au milieu des pèlerins. Ça, je crois, après la célébration de la messe elle-même, l'autre chose très importante et très attendue des fidèles. Et puis aussi, ben, derrière, il y a des questions de sécurité. Donc, tout organiser pour que les pèlerins soient en sécurité et que tous puissent participer et vivre un moment de grâce.
Donc, il faut que ce soit pratique, sécurite et puis beau, puisqu'il s'agit quand même de liturgie.
Exactement. Et Rome a l'œil sur tout.
Y compris sur ça, y compris sur la manière dont vous allez construire cette estrade et l'hôtel sur l'estrade.
Tout à fait. Dans les indications qu'on reçoit, donc on nous partage les différentes dimensions, que ce soit de l'hôtel, du siège de présidence, de la chasuble, de la mitre du Saint-Père, voilà. Mais également Rome, que ce soit la liturgie ou on peut le comprendre, hein, le service communication demande à pouvoir connaître un peu ce qui est prévu pour le podium, ben, pour être sûr que l'espace liturgique soit facile et agréable, pour le dire comme ça, mais que d'un point de vue communication, pour tout ce qui est captation vidéo, ben il n'y ait pas un pilier en plein milieu de l'hôtel qui empêcherait, qui empêcherait de voir le pape. Donc Rome est attentif à tous les points de détail.
Alors, est-ce qu'on peut parler de des questions d'ornement, et d'habits liturgiques? Vous nous avez parlé de centaines de prêtres, donc il faut habiller tout ce monde-là.
Il faut habiller tout ce monde-là et le sanctuaire, qui a quand même une certaine habitude d'un point de vue de la liturgie, pour avoir de grandes célébrations liturgiques. On l'a encore vu le 15 août, où on peut penser au 11 février. On a de la chance, nous avons des sacristies qui sont déjà bien fournies en ornement liturgique. Voilà.
C'est le sanctuaire qui fournit pour tout le monde.
Alors, le sanctuaire fournit une grande partie. Il a été décidé au niveau national que les prêtres auraient une étole nationale. Voilà. Donc, même ici au sanctuaire, les prêtres auront une étole, ce qui permet d'avoir une certaine unité pour les prêtres. Et cette étole nationale, elle s'inspire de la chasuble qui va être réalisée pour Paris, mais il y avait des éléments qui pouvaient être repris pour nous, la chasuble que l'on réalise pour le pape.
Parce que le Saint-Père ne débarque pas avec ses ornements liturgiques et ses habits liturgiques.
Alors, si on fait la demande, il peut venir, mais si on propose quelque chose, Rome accepte, après avoir validé, bien sûr. Donc nous, on a fait les trois lieux, que ce soit Paris, Metz ou Lourdes, les trois lieux ont fait le choix de proposer une chasuble pour le Saint-Père, ce qui permet de garder en souvenir d'un, enfin voilà, du passage du Saint-Père. Donc nous, au sanctuaire, on réalise donc la chasuble du Saint-Père, les dalmatiques pour les diacres, quelques chasubles aussi pour les évêques concélébrants principaux, et ensuite c'est tout le patrimoine de paramantique liturgique que nous avons déjà dans les sacristies qui servira pour pouvoir habiller les évêques, surtout avec une chasuble verte, parce que nous avons gardé la couleur liturgique verte pour la messe du dimanche.
Donc ce qui doit être confectionné d'ici le 27 septembre, d'ici le 26 septembre, est confectionné ici même au sanctuaire de Lourdes. Il y a un atelier avec des personnes qui travaillent pour ça.
On est gâté au sanctuaire puisqu'on a peut-être l'un des derniers ouvroirs liturgiques de France, avec Sœur Martha, une religieuse mexicaine qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir réaliser effectivement la chasuble du pape, la mitre, les dalmatiques pour les quatre diacres, et puis quelques chasubles supplémentaires pour les principaux évêques qui entoureront le pape autour de l'autel.
On a le droit de savoir comment sera la chasuble, peut-être la couleur liturgique.
Alors oui, on célébrera c'est un dimanche du temps ordinaire, donc on a gardé la couleur liturgique verte, voilà, et la chasuble sera belle.
Voilà, donc ça c'est le secret. Il faut venir le 27 septembre pour voir cette chasuble. Alors, on parle de la messe, mais c'est pas le seul moment liturgique. Il faut pas oublier ça. Vous nous l'avez dit en première partie. Le pape vient comme pèlerin, aussi comme pasteur, mais comme pèlerin. Donc il y a le passage à la grotte. Il y a aussi la veillée mariale le dimanche soir. Là aussi, on imagine que ce sont pour vous des temps forts liturgiques qu'il faut préparer, soigner, anticiper.
Effectivement, le premier geste que pose le pape en venant comme pèlerin, c'est de passer à la grotte. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental que le Saint-Père, dès qu'il arrive, se rende à la grotte. Ouais. C'est Bernadette le 11 février 1858, et ensuite, pour les 17 autres apparitions, c'est n'importe quel pèlerin qui arrive à Lourdes, après avoir certainement déposé son bagage à l'hôtel, c'est d'aller à la grotte pour un temps de prière. Donc on a ça, mais comme c'est un temps de prière qu'il y aura du monde dans le sanctuaire, il y a besoin effectivement de construire liturgiquement ce temps-là, donc avec le Saint-Père qui posera les gestes du pèlerin à la grotte, toucher le rocher, boire à la source et déposer en cierge.
Voilà, donc ça ce sont des moments aussi que vous préparez. Et puis, il y a la veillée au flambeau le dimanche soir.
Le dimanche soir, et donc, on a une trame. Donc, on ne va pas réinventer ce que l'on vit déjà au sanctuaire. On a gardé cette trame et on l'a adaptée alors, aux différentes contraintes de temps et de choses comme ça, mais aussi, on l'a adaptée pour que ce qui se vit puisse permettre au pape de faire l'expérience de cette procession mariale qui est connue de beaucoup de fidèles de l'Église, et derrière effectivement il faut pour une procession, enfin comme certainement bon nombre d'auditeurs peuvent la connaître, il faut des porteurs pour la statue, il faut des porteurs pour les
comment ils sont choisis, comment ces personnes-là sont choisies justement.
Alors ils sont choisis par rapport à l'identité de Lourdes.
C'est-à-dire
Alors Lourdes est insérée dans un diocèse, qui est le diocèse de Tarbes-Lourdes, donc avec une réalité diocésaine et des forces vives au niveau diocésain. Lourdes, on sait aussi l'importance et la première place qui est donnée à toutes les formes de précarité, de maladie, des choses comme ça. Et c'est ces éléments-là qui ont permis que je fasse des propositions à Monseigneur Mika et au Père d'Aubagne pour qu'on puisse solliciter des personnes pour pouvoir être qui portait la croix, qui portait les lumières ou qui portait la statue de la Vierge Marie dans cette procession mariale.
Voilà, un événement extraordinaire, mais une chose qui ne change pas, c'est que les personnes malades auront la première place, évidemment, pour cet événement, pour la venue du pape Léon XIV à Lourdes. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas.
D'une certaine manière, c'est un fil rouge. C'est un fil rouge pour toutes les liturgies et notamment à la procession mariale.
On arrive bientôt au terme de cet entretien, Père Baptiste Pochulu. Est-ce que vous serez prêt? Vous nous avez parlé des ornements, vous nous avez parlé du protocole, des chants, de tout un tas de choses auxquelles il faut veiller, qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer. C'est dans un mois, le pape Léon XIV sera là. Tout va bien, vous serez prêt?
Tout va très bien et je crois effectivement que l'on sera prêt. Maintenant que le 15 août est passé, on est vraiment lancé dans la dernière ligne droite pour l'accueil du pape. Alors au sanctuaire, il faut quand même continuer à faire vivre le sanctuaire et assurer la saison qui est en cours. Hein. Donc c'est sûr que ça rajoute un emploi du temps déjà bien occupé. Ça rajoute de l'occupation, mais ça n'empêche que les choses avancent. Elles avancent bien et donc elles me permettent d'être tout à fait en confiance pour être prêt à la date fatidique.
Merci beaucoup, Père Baptiste Pochulu. Bon préparatif, bon courage. Et puis, vous reviendrez probablement au micro de Radio Présence dans les semaines qui viennent pour nous donner des informations, peut-être à J-10, J-5. Merci beaucoup.
Merci Anne-Rose, à bientôt.
Présence à Bourdeuil, 94.
Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour aux sentiments trouvés, au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour aux sentiments perdus, au milieu des cartables et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour aux sentiments trouvés, au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, c'est ce qu'attendent les cuirs en serviettes et blousons pour enfin ressortir. C'est un compte à rebours pour lunettes de soleil que l'on des cartons empêche de voir le ciel. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour aux sentiments perdus, au milieu des cartons et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées. Plus de velours, c'est ce que veulent les alliances. On rêvant de main gauche, d'oreiller de confidence. Dans un an et un jour,
l'Office de tourisme de Lourdes.
On va prendre maintenant la direction d'un village qui se trouve pas très loin de Lourdes. Ce village s'appelle Bartrès et on y part avec Julie. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. On va découvrir ce petit village, un petit village qui est marqué avec évidemment Bernadette Soubirous. On en parlera dans un instant avec vous.
Exactement, voilà. Alors Bartrès, il faut savoir, c'est un tout petit village qui se trouve au nord de Lourdes, à environ 4 km. Ils sont à peu près 560 habitants à Bartrès. Et effectivement, c'est habité, c'est peuplé depuis très très longtemps. On y a retrouvé à Bartrès des mégalithes, des menhirs, des dolmens et aussi un tumulus qu'on ne peut plus voir malheureusement puisqu'il a été détruit avec la mise en culture de la lande de Bartrès. Il y a également aussi une église, l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est une ancienne église médiévale fortifiée qui servait autrefois de protection pour les habitants du village. Elle a été restaurée et reconstruite en partie et elle abrite toujours aujourd'hui un magnifique retable qui date du XVIIe siècle, classé au titre des monuments historiques.
Alors évidemment, quand on parle de Bartrès, on pense immédiatement à Bernadette Soubirous, puisqu'elle y a passé deux périodes de sa vie.
Exactement, c'est la personnalité vraiment la plus connue du village de Bartrès. C'est aussi pour ça que de nombreux visiteurs veulent y aller pendant leur pèlerinage à Lourdes. C'est que Bernadette y a séjourné deux fois. Elle y a séjourné d'abord toute petite en nourrice. C'était de 1844 à 1846. Sa mère, suite à un accident, ne pouvait plus vraiment l'allaiter. Et du coup, une dame de ce village de Bartrès, Madame Marie Lagus, a accepté de la prendre en nourrice. Donc autrefois, cette maison Lagus, ou aussi appelée maison de la nourrice, pouvait se visiter. Maintenant, elle est fermée au public, mais on peut toujours y passer devant.
Autre période pendant laquelle Bernadette était à Bartrès, c'est juste avant les apparitions.
Exactement. Là, c'est pour une autre raison. Ça a été à peu près de septembre 1857 à janvier 1858. Donc là, pas de problème, enfin, pas pour une question de nourrice, mais c'était vraiment parce que la famille de Bernadette est tombée un petit peu dans la misère. Suite à un accident du père de Bernadette, ils n'ont pas pu rester au Moulin-Boly. C'est à ce moment-là qu'ils ont déménagé au Cachot. Donc le Cachot, c'était l'ancienne prison de la ville, qui ne l'était plus quand Bernadette y a déménagé, mais le nom est resté. Et bon, pour éviter d'avoir à payer et à nourrir pour une bouche de plus, ils ont renvoyé Bernadette, du coup, chez son ancienne nourrice à Bartrès. Elle va y travailler à la ferme, elle va garder les enfants de la famille et également les moutons et les brebis au niveau de la bergerie, la petite bergerie qui se trouve sur la route de Bartrès quand on arrive de Lourdes, sur la route de Lourdes. Donc elle va rester là donc jusqu'en janvier 1858 et à partir de là, vu qu'elle n'était pas très instruite, elle n'avait pas fait sa première communion, Bernadette, elle a vraiment ce désir de faire le catéchisme et de pouvoir passer, de faire sa première communion. Donc elle va d'elle-même rentrer à Lourdes et on sait que quelques temps plus tard, en février, elle aura la rencontre qui va changer sa vie et celle de la ville de Lourdes.
Alors ce village de Bartrès, on peut y aller évidemment en voiture, mais il y a aussi un chemin pédestre qu'on peut emprunter depuis le sanctuaire de Lourdes.
Tout à fait, le chemin de Bernadette qui est praticable alors depuis le sanctuaire de Lourdes et qui monte à travers les coteaux au nord de Lourdes pour arriver à Bartrès. C'est un petit chemin facile à suivre, il est balisé en rouge et blanc, c'est un GR, il fait partie d'un GR. Et il y a à peu près 4 km, donc une heure et demie à peu près de randonnée. On peut également arriver jusqu'à la bergerie où elle gardait les moutons. Et là, on peut la visiter, on peut en faire le tour de la bergerie et y passer un petit peu de temps.
Au-delà de suivre les traces donc de Bernadette Soubirous, le village de Bartrès permet d'avoir une jolie vue sur les Pyrénées.
Exactement, oui, voilà, en montant sur ce chemin, ça permet d'avoir des points de vue dégagés sur l'entrée des vallées et sur les Pyrénées autour de Lourdes.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce petit village qui se trouve vraiment à côté de Lourdes, à quelques kilomètres, vous l'avez dit, 4 kilomètres donc de Lourdes. Ce village s'appelle Bartrès et on vous encourage à aller y faire un tour. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Pays de Lourdes. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt.
Balade en Pays de Lourdes en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad,
baby, I'm so carefree. With a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
À Castelsarrasin, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La justice est en marche en Syrie contre l'ancien régime, coupable de crimes de guerre. Un cousin de Bachar al-Assad est à son tour